Vous écoutez France Musique.
Les traverses du temps. Bonsoir à toutes et à tous. Avec nous ce soir une très grande comédienne que vous connaissez bien sûr, Andrea Ferréol, comédienne, mais d'abord au théâtre. Puis au cinéma, qui va la rendre très populaire, et pas seulement avec cette fameuse grande bouffe de Marco Ferreri en 1973, car elle a aussi beaucoup tourné avec de grands réalisateurs et souvent à l'étranger, en Italie, en Allemagne. Il y a eu Ettore Scola, Fassbinder, Volker Schöndorff et tant d'autres. Mais son cœur, eh bien son cœur, il bat toujours aujourd'hui du côté de la Provence. Elle est même l'arrière-petite-fille de Frédéric Mistral, et la ville d'Aix, où elle a vu le jour, est toujours aussi chère à son cœur. Bonsoir Andrea Ferréol.
Bonsoir.
Alors la Provence, ça veut dire d'abord pour vous peinture, non?
La Provence, c'est déjà mes racines. C'est la peinture aussi, puisque j'ai fait les Beaux-Arts. Et puis c'est la ville de Cézanne, alors il ne faut pas l'oublier. De Cézanne, de Zola, de Venlot, de Vauvenargue, de Mirabeau. Donc c'est une ville qui a été très riche en personnages importants et célèbres dans des horizons et des milieux totalement différents. Donc j'étais assez jeune, j'avais 16 ans, j'ai commencé les Beaux-Arts dans cours du soir, une année entièrement. Et puis de là, je suis allée vers le théâtre.
Mais il y a eu la musique aussi, parce que quand on est l'arrière-petite-fille de Frédéric Mistral qui a tellement aimé la musique, il était normal que dans votre famille, on vous fasse découvrir très tôt la musique.
Très très tôt, j'avais une grand-mère qui était un peu fantasque, en fait peut-être que je lui ressemble un peu d'ailleurs, et qui organisait dans son jardin, qui était assez grand dans le centre d'Aix, des soirées, je dirais lyriques. Et il y avait des chanteurs, des chanteuses qui venaient et qui faisaient un récital. Et moi j'allais, avec une jolie petite robe, leur donner le bouquet de fleurs à la fin. Donc c'est un souvenir, mais très lointain, bien sûr. Et puis, je sais qu'elle avait aussi organisé au Beau de Provence une Mireille de Gounod pour une charité, parce qu'elle s'occupait, bien sûr, de beaucoup de charité.
Et parmi ces chanteurs, eh bien justement, il y avait une basse qui a souvent interprété le père de Mireille. Je veux parler d'Adrien Legros.
Adrien Legros, qui habitait Aix-en-Provence et que, bien sûr, j'ai bien connu et qui a dû me faire sauter un petit peu sur ses genoux. Et même, il y a encore quelques années, peut-être 10-15 ans, il était à Aix, il était un très vieux monsieur et je lui ai téléphoné. Il était absolument ravi. Et puis, il y avait aussi Lucien Le Guirand, qui habitait Aix.
Jacqueline Sylvie. Avec son mari Botio, non?
Et donc ténor, là, oui. tous ces trois chansons, eh bien, je les ai vus très très jeunes, parce qu'à l'époque, les villes avaient un théâtre municipal, il y a toujours, mais enfin, ils travaillent différemment, et ils organisaient, il y avait de l'argent à l'époque, donc ils montaient des opéras.
Au petit théâtre municipal d'Aix-en-Provence, une petite merveille.
Oh oui.
On va écouter Adrien Legros, justement dans le rôle de Ramon, le père de Mireille, cet air qu'il chante ici avec l'orchestre dirigé par Jésus Etcheverry.
Enfants, maudites amours, cruel souci qu'un sort funeste nous envoie. C'en est fait de ma joie et du repos de mes vieux jours. C'en est fait de ma joie. D'été, les grands orages, la nuit obscurcit l'horizon, l'éclair déchire les nuages, le vent disperse la moisson. Ainsi le deuil frappe à ma porte, ainsi le malheur fond sur moi. Prison mon rêve.
Adrien Le Gros, dans ce récit de Ramon, le père de Mireille, dans La Mireille de Charles Gounod, sous la direction de Jésus Etcheverry, Charles Gounod, Frédéric Mistral, qui disait « Mireille, un beau matin, chantait, maître Gounod l'écoutait, il a pris sa chanson par cœur et depuis il chante à l'unisson. Mmh. » Des beaux souvenirs pour vous aussi, André Ferréol. Mireille, au théâtre municipal, ah, il s'appelait déjà le théâtre du Jeu de Paume.
Non, ça s'appelait le théâtre municipal d'Aix-en-Provence. Et en écoutant à nouveau Adrien Le Gros, j'ai revu le décor. C'est extraordinaire. Comme ça, un flash. Et il y avait évidemment un arbre dans un acte. Il y avait un arbre qui était dressé parce qu'elle chantait, manana. Voilà. Et donc l'arbre, tout d'un coup, j'ai vu l'arbre et les échelles qui étaient posées autour de l'arbre parce qu'elles allaient cueillir. Voilà, mais c'est extraordinaire, vraiment. C'est toute ma jeunesse, ça. Hein.
Puis il y a un autre arbre, il faut bien le dire, qui va vous rappeler beaucoup de choses. C'est l'arbre qui était dans la cour de l'archevêché où avait lieu le festival.
Ah oui, oui, oui. Il y en a un tout petit maintenant.
Oui. Mais un petit peu. À l'époque, c'était plus poétique quand même.
Oui, oui, oui. C'était plus poétique et plus beau. C'était une salle rouge à l'ancienne, comme un théâtre. Là, maintenant, c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus. Bon, il y a plus de place. Donc,
Et vous avez connu Gabriel Lussurgeon ?
Bien sûr, je l'ai connu. Là aussi, j'étais très jeune quand je l'ai connu. Et j'ai découvert ce monsieur absolument extraordinaire. D'intelligence, d'acuité, de son regard bleu et en même temps d'un humour et d'une ironie absolument implacable, je dirais, sur les uns ou sur les autres, et racontant avec une joie et un cœur tous ses souvenirs, comment il a rencontré tel ou tel chanteur. C'était formidable. C'est vraiment. J'ai passé des déjeuners chez lui, plus âgé, alors. Et vraiment, c'est un monsieur qui manque beaucoup, je trouve, dans le panorama de l'opéra, de la musique, de la recherche, de la découverte.
Et oui, la découverte de Berganza, Stij Randall.
Oui, et d'Alania.
Et d'Alania aussi.
Ah oui. Alania ne le dit jamais, je crois, mais c'est Gabriel qui l'a découvert.
Et il y avait aussi, évidemment, notre cher Gabriel Baquier, oui. Que vous vouliez entendre dans Don Juan. Eh bien, on va l'écouter, c'est un extrait de la scène finale. Mais
oui, parce que Don Juan, c'est un des premiers opéras que j'ai vu et entendu au festival. Avant, j'avais vu au théâtre municipal. Mais là, tout d'un coup, j'étais dans la cour des grands, j'allais dire, où il y avait de chaque côté des barrières, avec les ex-sois qui regardaient, les privilégiés en robe longue à l'époque et smoking qui allaient au festival. Maintenant, vous pouvez venir en savate, plus personne ne fait attention.
Don Juan, Gabriel Baquier.
Sostengo in cor la tua anima, sostengo in gloria.
Don Juan, Don Juan, c'est pas sur la scène d'Aix, c'était Gabriel Baquier, oui. Notre grand Don Juan national, avec Donald Graham dans Les Porello, Pilar Lorengar, qui avait été une des premières découvertes aussi de Gabriel Dussurget, cette fois dans le rôle d'Elvire, avec l'orchestre de chambre anglais sous la direction de Richard Boninge. Dans ce festival, vous allez rencontrer un jour quelqu'un, Andréa Ferréol, qui va vous guider vers le théâtre.
Absolument.
Jean-Laurent Cochet, qui a été notre invité récemment.
Ah, très bien. Ben, un soir, je suis allée voir Ariane Anaxos.
68 alors.
Oui,
c'était le mai 68, juste après.
Juste après mai 68.
C'était 68 et 70, je crois, la reprise.
Et donc, quelqu'un me l'a présenté. On m'a dit qu'il était professeur de théâtre. Moi, j'étais à Aix-en-Provence et je faisais déjà un petit peu de théâtre. Et il m'a dit, viens dans mon cours. Alors il m'a demandé de le promener. Nous sommes allés en Camargue, nous avons visité des choses. Tous les deux, tout seuls, on a parlé. Et puis, voilà, je suis venue à son cours à Paris en septembre. Et voilà, ça c'est
il
comme ça.
Il venait d'avoir le cours Cochet.
Ah oui, il y avait le cours. Le cours Cochet, c'est un cours célébrissime. Il y a quand même eu Gérard Depardieu, il y a quand même eu...
Il y a eu Lucchini aussi.
Lucchini, Fabrice, bien sûr. Non, il y avait des gens très très importants dans le cours, qui sont devenus très importants.
Et il nous racontait qu'aujourd'hui encore il enseigne, et là il y a du public qui vient en nombre pour écouter son enseignement, tellement il est passionnant.
Ah oui, il y avait Richard Berry aussi, qui était dans son cours. Mais ça, c'est plusieurs années différentes. Donc voilà, et puis après, j'ai fait le cours de Bourseiller. Et ensuite, c'est Antoine Bourseiller, puisqu'il était retourné à Aix-en-Provence, le Centre dramatique national du Sud-Est, et qui m'a dit, Andréa, maintenant, ça suffit les cours, il faut travailler. Et voilà. Non, mais c'est vrai, un comédien apprend son métier sur le terrain, pas dans les cours. Dans les cours, on peut être la vedette du cours. Et alors, c'est pas pour ça que vous aurez du travail.
Et cette Ariane Anaxos, ça vous avait aussi marqué, c'était un spectacle magnifique.
Ah, c'était magnifique. Vous savez, Aix, c'est rare qu'il y ait
C'est vrai.
Voilà.
De
moi, je le dis, de mauvais spectacles, c'est rare. Il y a des spectacles qui peuvent être plus ou moins aimés ou controversés. J'ai le souvenir d'un spectacle il n'y a pas si longtemps, que moi j'ai adoré et qui était controversé. Mais bon, sinon, moi je trouve que c'est un festival. D'ailleurs, la dernière création de Patrice Chéreau.
C'est extraordinaire.
Ah, c'était un moment de grâce, de bonheur.
Et là, on va se retrouver dans les années 60. Sur scène, il y avait quand même du beau monde, Régine Crespin, Tatiana Troyanos et Maddy Mesplé dans Herbinet. Eh bien, c'est elle que nous allons écouter, enregistrée cette fois ici, au Grand Théâtre de Genève.
Ah, génial. Thank you.
Enregistré au Grand Théâtre de Genève avec l'Orchestre de la Suisse romande sous la direction de Peter Mag, Maddy Mesplet dans la Zerbinette d'Ariane Anaxos de Richard Strauss. Vous écoutez France Musique et dans ces traverses du temps, nous sommes en compagnie de cette grande comédienne que vous connaissez tous, Andrea Ferréol, qui adore la musique, vous l'entendez, qui adore l'opéra. C'est un bonheur de vous entendre parler de la musique, Andrea.
Mais Maddy Mesplet, c'est juste sublimissime.
Ah oui.
Ce timbre de voix, cette légèreté, cette finesse, c'est un plaisir absolu. C'est, on dirait, un ange qui chante.
Une grande dame en plus, une très grande dame. Donc vous racontiez que finalement, Aix-en-Provence, Festival de la Lyrique vous mène vers le théâtre avec Jean-Laurent Cochet, Antoine Bourseiller, et bientôt vous allez jouer des choses insensées à Rabal.
Oui.
Mis en scène par Jean-Michel Ribes,
Oui. J'ai fait deux spectacles avec Ribes. D'abord, Le lait de Barabbas et ensuite Les fraises musclées, qui a été un très gros spectacle de café-théâtre un peu et qui nous a tous propulsés très largement avec Philippe Corsande, Jean-Michel lui-même et d'autres. Et bon, voilà, ça c'était mes débuts joyeux.
Le lait de Barabbas, c'était à Rabal.
C'était à Rabal, oui, au studio des Champs-Élysées.
C'est là qu'il y avait le décor de Garouste.
Il y avait du Garouste. Des Garoustes, comme vous savez, avec Jean-Michel, sont des amis de très longue date. Et il était là, il nous faisait les décors, les costumes, il faisait tout. C'était vraiment extraordinaire.
Et puis, vous aimez bien sûr toujours Mozart, vous allez toujours au Festival d'Aix-en-Provence, et il y a un jour le bel canto qui rentre aussi dans votre vie.
Oui.
Et comment ? Maria Callas.
Oui, quand j'ai découvert Maria Callas, j'ai découvert le bonheur aussi. Et comme vous savez, il y a un an, j'ai joué sa maman au théâtre de Jazé sur la vie de Maria Callas. Et donc, j'ai découvert cette mère dure, exigeante, mais qui, en fait, je pense, aimait sa fille. Bon, ça, c'est peut-être, il faut en discuter longuement. Mais en fait, avait découvert que sa fille avait une voix magnifique et elle l'a poussée pour qu'elle chante. Si elle a fait sa carrière, Callas, c'est sa mère et Meneghini, c'est les deux qui l'ont poussé. Et Meneghini lui a tout apporté, des professeurs de chant superbes, l'a fait maigrir, l'a épousé, enfin tout. Mais la mère l'obligeait à travailler son chant, parce qu'elle sentait qu'elle avait, bon, qu'elle avait une chanteuse à la maison, quoi.
C'était un texte de Jean-Yves Rogal.
Voilà, exactement.
Et vous jouiez aux côtés de Pierre Santini, si je me souviens bien.
Oui, absolument.
L'année dernière, oui. 2013, au Théâtre des Jazets, on écoute Maria Callas et Anne Boleyn, Gaetano Donizetti, avec l'Orchestre de la Scala.
qu'on ne peut pas, quand on fait une émission musicale comme la vôtre, éviter Maria Callas. C'est impossible.
Et là, qu'elle triomphe, comme d'habitude, à cette époque-là, c'était vraiment la grande cantatrice. Elle chantait sous la direction de Gian Andrea Gavazzini cette air d'Anna Bollena de Gaetano Donizetti. On reste encore dans le Festival d'Aix-en-Provence, Andrea Ferréol. Andrea Ferréol, le bel canto qui va vous mener tout d'un coup à la musique baroque. Et vous allez vous passionner pour ça. Oui. C'est quoi? C'est venu d'un chef d'orchestre? C'est venu d'un spectacle?
C'est William Christie qui a fait plusieurs spectacles à Aix, auxquels j'ai assisté. Et tout d'un coup, j'ai commencé à appréhender cette musique. Et puis, je trouve que c'est une musique mathématique. Voilà. Mais bon, ça, c'est mon avis. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'écoute du baroque, la musique baroque, je vois des chiffres, je vois de la mathématique devant moi. Et j'ai découvert comme ça Cecilia Bartoli aussi.
Oui, je pense que c'est à cause des vocalises tellement précises qu'il faut avoir
sûrement. Mais bon, je l'ai dit à une assistante de William Christie qui m'a dit « Ah oui, c'est intéressant ce que vous dites, c'est peut-être vrai. C'est une première approche qu'on ne connaissait pas. » Voilà. Et puis, bon, la Bartoli. Bah, la Bartoli, quoi.
Et c'était où, la Bartoli?
La Bartoli, c'était à Pléiel.
À Pléiel.
Oui, ce grand
concert.
C'est
là qu'il y avait tous les chanteurs.
Tout le monde. Andrea Scholl, Jarouski, Stutzmann.
Nathalie Stutzmann aussi.
Ah aussi, oui. Et j'ai eu beaucoup de mal, je dois dire, avec Cecilia Bartoli. J'aimerais bien la rencontrer une fois, un jour, pour lui raconter. Au début, elle m'exaspérait.
Ah tiens.
Parce que je trouvais que c'était tellement parfait dans la technique. Pour moi, c'était quelque chose de totalement technique. Et puis, petit à petit, à force de l'écouter, de m'en imprégner, j'ai vu que c'était autre chose. Il y avait de la technique, bien sûr, pour faire ce qu'elle fait, mais il y avait aussi toute une intériorité et toute une sensibilité qu'elle nous faisait passer. Et donc maintenant, j'écoute Bartoli tout le temps.
Mais vous vouliez qu'on écoute Andrea Scholl,
oui,
c'est une bonne idée.
Absolument.
On va l'écouter dans du Tommaso Albinoni, Astarto, l'air de Nino. Il est ici accompagné par l'Accademia Bizantina sous la direction d'Ottavio D'Antone.
Sfortunato voi mi fate, ma non son reso infedele, infedele. Ha 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 ha!
du Andreas Scholl comme vous l'aimez, Andrea Ferreone.
Ah oui, 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 c'est vraiment...
Avec l'Accademia Bizantina sous la direction d'Ottavio D'Antoni dans cette air de Tommaso Albinoni, extrait de son opéra Astarto.
Qu'est-ce que je suis triste de ne pas avoir une voix, mais alors vraiment.
Mais vous avez voulu chanter, vous avez pris des cours.
Oui, j'en ai même pris récemment, ça a été une catastrophe, j'ai refusé un projet parce que les deux professeurs qui m'ont vu m'ont dit « Mademoiselle, si nous étions votre agent, on vous dirait de ne pas y aller ». Alors j'y suis pas allée, voilà. Mais c'est dommage, hein.
Mais il me semble que quelqu'un au Châtelet vous a aidé pourtant.
Oui,
Sabine Vatin.
Oui, ben Sabine, une chanson ça va, tout un spectacle, elle m'a dit non. Voilà. Donc voilà, j'irai voir le spectacle, mais ce sera pas moi sur scène.
Et puis, on parlait de Nathalie Stutzmann, et puis il y avait un spectacle que vous avez beaucoup aimé, un opéra de Laurent Petit-Girard sur un livret d'Éric Nonne,
oui,
c'est ça ?
Oui, Éric Nonne, c'était un grand ami à moi. J'ai fait des tournées théâtrales avec lui. Nous sommes toujours très amis. C'est sa femme qui exposera aux Flâneries d'art cette année.
Ah oui, parce qu'on va parler de ça, des Flâneries d'Aix-en-Provence.
Voilà. Et donc, un jour, il me dit, écoute, je suis en train d'écrire un opéra. J'ai un opéra, mais c'est génial. Parce qu'Éric, il a été comédien, il a fait de l'opéra, il était ténor, puis il a abandonné, puis il était écrivain. Et donc, il a écrit ce Elephant Man.
Ça a été joué à Nice.
Parce que ça a été créé en Tchécoslovaquie.
Ah, c'est ça,
Prague.
Oui, à Prague, voilà, c'est ça.
Et
ça
a été avec donné à Nice. Nathalie Stutzmann. Et il était absolument ravi, mais heureux d'avoir cette chanteuse dans le rôle d'Elephant Man.
Eh bien, on va écouter un extrait, puisque ça a été enregistré à l'opéra de Monte-Carlo. Excusez-moi, je dis des bêtises, vous voyez. Et c'est donc Nathalie Stutzmann qui joue le rôle de Joseph Merrick, qu'on appelait donc Elephant Man.
Oui.
Et là, c'est la scène où il vient d'être interviewé par un journaliste, et puis là, il n'en peut plus. Et comme il est devenu très ami de Mary, l'infirmière, qui s'est aussi beaucoup attaché à lui, il lui dit « Je ne veux plus qu'on me raconte, je ne veux plus qu'on m'imagine. » Et ça s'achève sur cette phrase finale terrible. « Je peux pleurer, mais je ne peux pas sourire. »
Ah, c'est terrible.
Vous venez de nuit,
La dernière scène de l'acte 3 de Elephant Man, un opéra de Laurent Petit-Girard sur un livret de Rignon, Nathalie Stuntzman dans le rôle-titre, avec Marie Develrault qui joue ici le rôle de la jeune infirmière Mary, l'orchestre de l'opéra de Monte-Carlo, sous la direction du compositeur.
C'est très émouvant.
C'est très émouvant, très émouvant, vraiment. Ouais. C'est un très bel opéra, très réussi, qui a eu beaucoup de succès public, en tout cas.
Et pas assez joué.
Pas assez joué, voilà.
Aussi, comme d'habitude.
Le directeur de théâtre, écoutez ça, et ça voilà. Fera du monde dans la salle, en tout cas.
Ah oui, oui, oui.
Les fanneries musicales d'Aix dont vous vous occupez, ça fait un bon moment maintenant. C'est merveilleux parce que vous mettez les jardins, vous faites vivre des jardins d'Aix en Provence avec tous les arts mélangés.
Absolument.
Avec de la musique aussi.
Mais ce sont des jardins privés, donc on va chez les gens. On découvre le patrimoine privé, caché même. Il y a des jardins qui sont tout à fait cachés et inaccessibles. Et depuis, c'est la 8e année cette année, et dans lesquels je mets de l'art, peinture, sculpture, céramique, haute couture, joaillerie, vidéo cette année. Les émaux, cette année, il y aura une émailleuse qui fait des choses magnifiques. Ça dure sur 48 heures, le 14 et 15 juin. Bien sûr, l'entrée est gratuite. Il y a un musicien par jardin. Et il y a des événements, c'est-à-dire il y a des moments musicaux. Un quart d'heure, 20 minutes de danse, un quart d'heure, 20 minutes d'opéra, de jazz, de lecture de textes et de chants. Donc les gens vont de jardin en jardin, vont flâner et tout d'un coup ils se disent « là, il y a quelque chose ». Alors ils s'assiedent, puis ils attendent et ils sont très très nombreux. Et tout ça, c'est la découverte des arts. Et je trouve que c'est très important que les gens puissent avoir accès à l'art au lieu d'aller dans un musée. Parce que parfois, ils n'ont pas l'argent ou même l'idée, ou ça ne les intéresse pas. Et tout d'un coup, c'est là, c'est facile, c'est ludique, c'est palpable, c'est à la portée de tous. Et tout ça agrémenté d'autres choses. C'est-à-dire, qui adore le jazz est là, qui adore l'opéra. Et cette année, nous avons un très grand chanteur d'opéra.
Mais oui, qui chante au Festival d'Aix.
Absolument, Juan Sancho.
Juan Sancho, qu'on entendra à Aix dans le Turc en Italie.
Oui.
Il y aura 8 représentations du 4 au 22 juillet.
Et donc, si vous voulez, je remercie le festival parce que chaque
année... Avec le festival.
Ah oui, ça fait quatre ans maintenant où nous collaborons ensemble et j'ai eu des chanteuses et des chanteurs formidables.
Si encontrares durmiendo a Cupido, si velar no quieres, déjale, 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 déjale dormido. Durmiendo estaba una tarde, durmiendo estaba una tarde en las flores, Cupidillo, que se duerme fácilmente. ¿Quién es ciego y quién es niño? No siempre estamos despiertos, no siempre estamos despiertos. Tal vez suele conducirlo de la mudanza al cansancio, al letargo del olvido. Y una zaga deja libre. De su amor, su adamiño, no queriendo querer nunca, quiso despertarle y quiso, niñas, encontrar durmiendo a Cupido. Niñas, encontrar durmiendo a Cupido. Si velar no quieres, déjale, déjale. Es el despertarle, mas lisonja con peligro, porque en la inquietud de amor el descanso no es alivio. Si huye amor de robar, si huye amor de robar, voluntades y albedríos, duerma pues su tiranía, se temblará de los días. Cuando al arado del sueño, cuando al arado del sueño.
Niña, si encontrares durmiendo a Cupido, ma petite, si tu trouves un jour Cupido endormi, surtout ne le réveille pas si tu veux dormir en paix. C'est assez joli, André Ferrer.
C'est joli, puis il a une très jolie voix.
Juan Sancho, vous venez de découvrir voilà, votre ténor.
Je le rencontre donc le dimanche 15 juin à 18h.
Dans quel jardin?
Au Patio des Oblats. C'est lui qui va clôturer les flâneries.
Et là, on l'entendait avec ses amis de l'ensemble Ars Atlantico, je crois qu'ils sont de Galice, en Espagne. Et c'était Eligio Luis Quinteiro à la guitare baroque et Manuel Vilas à la harpe baroque espagnole qui accompagnait donc Juan Sancho dans cet anonyme du XVIIe siècle espagnol. Et il y a aussi un concert dans ces flâneries.
Oui, le samedi soir, le 14, à 21h, au Petit Théâtre du Jeu de Paume, à Aix, il y a un concert de charité pour la maison de Gardanne, qui est une maison de soins palliatifs, qui fête ses 20 ans.
Oui, elle est connue, la maison de Gardanne.
Ah oui, avec une équipe formidable, dirigée par Jean-Marc Lapiana. Et donc, c'est SOS Talents, c'est une fondation qui promeut de très, très, très jeunes talents. Ils ont entre 12 et 14 ans, des jeunes pianistes qui viennent de l'Est et qui seront là et qui joueront. Et bien sûr, c'est la seule chose qui n'est pas gratuite dans les flâneries cette année, puisqu'on demande une participation minimum de 10 euros pour la maison.
Bravo, vraiment bravo.
Voilà, voilà. Mais on tend aussi une main à Michel Thor, qui va dire des textes pour la première fois de sa vie. Elle commence à trembler, j'ai l'impression. Le samedi à 16h, toujours au Patio des Oblats, parce qu'elle a une association, l'association de la sclérose en plaques du Pays d'Aix, qu'elle a créée avec son fils, qui malheureusement est atteint de cette maladie. Et donc, elle va dédicacer ses livres, ses disques, pendant une heure avant. Et après, elle va dire des textes, des lettres très amusantes de Calamity Jane, de Colette, de Madame de Sévigné. Donc voilà, je pense que
mais
ça va être un moment.
C'est merveilleux, je trouve. On est dans des jardins, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans des sanctuaires. C'est formidable de pouvoir voir tous ces
gens. Les gens sont
réunis.
Assis par terre, ils sont sur des grilles, ils sont sur des chaises et ils se précipitent et ils ont un moment de bonheur où ils partagent, de partage.
Puis j'ai un petit coup de cœur, moi j'aimerais bien les entendre, ce groupe qui chante du provençal Oxycante.
Oui.
Ils n'ont pas fait de disque encore.
Ils n'ont pas fait de disque encore.
Bah,
écoutez, s'ils en ont un, je vous le ferai passer, je vous l'offrirai volontiers.
Plaisir.
Je les ai découverts dans un film que j'ai fait, qui s'appelle La Vallée des mensonges, que j'ai tourné dans la Drôme, qui va sortir sur FR3. Et là, tout d'un coup, dans le cimetière, il y avait ces messieurs. Et je leur ai dit, oh, venez ici, j'ai besoin de vous cet été.
Et puis, il y a Andréa Ferréol, qui a toujours du chant autour d'elle. Je vois dans l'accord régime de Philippe Broca avec Belmondo, chantiez des leaders.
Absolument.
Enfin, vous faisiez semblant d'une place que vous les chantiez.
Je les ai appris par cœur, je bougeais les lèvres, c'était en playback.
C'était du playback.
Et puis, j'ai fait la princesse Turandot au théâtre avec
Pintilier. Ça, c'était Brecht. Hein. Ah non, c'était
avec
de
Gozzi. Monsieur Pintilier, Gozzi, j'ai chanté les questions.
Ah d'accord.
Sur la
Puccini.
Voix de John. Oui, Puccini sur la voix de John Sutherland.
Ah, pas n'importe
qui. Je voulais Callas, bien sûr, mais c'était beaucoup trop cher à l'époque. Et puis ensuite, j'ai fait le fantôme de l'opéra et je faisais cette chanteuse méchante. Et voilà, et qui était une très mauvaise cantatrice.
Et bientôt au Théâtre La Bruyère ?
Oui, au Théâtre La Bruyère à partir de mi-septembre, dans une pièce, c'est une création, 4 minutes ça s'appelle, et ça se passe dans un milieu carcéral, et il y a beaucoup de musique.
Parce que vous êtes un professeur de musique, élève de Furtwängler.
Exactement, et la jeune actrice, qui s'appelle Pauline Leprince, que tout le monde va découvrir, et qui a beaucoup de talent, apprend à jouer du Schumann et du Schubert depuis 4 ans.
Ben
pour la pièce, voilà.
On ira vous voir, Andréa Ferréol.
Et bien,
on va se quitter sur un chanteur que vous admirez énormément, comme tout le monde, Jonas Kaufmann, mais dans des leaders. Un disque magnifique, je trouve, de Richard Wagner. C'est les leaders pour Mathilde Wesendonck. On va écouter Im Treibhaus dans La Serre. On l'écoute avec l'orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, sous la direction de Donald Runicles. Thank you. Et oui, le thème de Tristan dans ce Im Treibhaus, dans la serre des Wesendonglieder de Richard Wagner avec Jonas Kaufmann et l'orchestre de l'Opéra allemand de Berlin sous la direction de Donald Reinickels. Eh bien, on va se quitter, André Ferrer.
Oui,
c'était un bonheur de vous avoir.
Là, merci, moi vous m'avez donné beaucoup de bonheur. Merci de m'avoir invité parce que cette heure passée avec vous et ces chanteurs qui ont tous, ils ont un talent immense. Voilà,
eh bien,
donc je pars légère et remplie de bonheur. Merci.
On va vous retrouver donc, nous tous, si nous allons là-bas en vacances dans le midi, on va à Aix.
Mais
c'est le 14 et le 15 juin prochain.
Absolument.
Ne pas rater les flâneries d'art contemporain dans les jardins aixois que vous dirigez. Vous prendrez les gens par la main à travers ces jardins. Merci beaucoup, Andrea Ferréol. L'équipe des Traverses du Temps, Stéphane Poitevin, Philippe Petit, Martine Moni, et c'est maintenant Arnaud Merlin qui nous présente le concert contemporain de France Musique. Bonsoir Arnaud.